Écoutez la parabole des deux touristes. Deux touristes arrivent dans la ville de Québec. Ils arrivent dans la ville de Québec et ils se promènent dans les rues. Et ils abordent un passant et lui disent « Monsieur, nous venons d'arriver, qu'est-ce qu'il y a à voir dans la ville de Québec ?» Alors le monsieur qui était de l'endroit lui dit « Ben là, moi, dans le fond, ici, c'est le château Frontenac qu'il faut regarder. » Alors il lui demande « Mais comment est-ce qu'on y va ?» Ah, il dit « C'est simple, il vous faut trouver le boulevard Laurier. Quand vous avez trouvé le boulevard Laurier, vous le suivez direction est, vous allez tout au bout, même s'il change de nom, c'est pas grave, mais vous allez tout au bout et vous tombez sur le château Frontenac. » Et comment on le trouve, ce boulevard Laurier? Alors il dit, voilà, c'est simple. Vous continuez par là, au prochain bloc, vous prenez vers le sud, vous faites deux blocs, vous allez trouver un Starbucks. Là, vous tournez à gauche, vous allez tout droit, vous allez tomber sur le boulevard Laurier. Et les deux touristes s'en vont, ils disent, mais nord, sud, est, ouest, je ne sais pas où c'est, moi. Alors ils avancent, un bloc, deux blocs, et évidemment, ils vont tourner du mauvais côté. Et continuent à avancer. Et il tombe sur Starbucks. Il dit, on est sur le bon chemin. Alors, il continue à chercher une rue par-ci, une rue par-là. Il ne trouve toujours pas le boulevard Laurier. Il continue à avancer. Il continue une rue, puis une autre rue. Et il trouve un autre Starbucks. Il dit, oh, mais c'est formidable, dans cette ville, il y en a partout. Et il y en a un qui dit, mais attends, c'est le même que tout à l'heure, en fait. On a tourné en rond. Alors il continue. Il continue, il se dit, moi, il faut qu'on demande notre chemin. Ils arrêtent quelqu'un et ils disent, où est le boulevard Laurier, monsieur? Alors le monsieur a dit, ben, vous continuez ici, deux blocs plus loin, vous prenez vers le sud et vous allez tomber dessus. Vers le sud. Alors il continue, il tourne d'un côté, il tourne d'un autre. Et il continue à tourner pendant un moment jusqu'à ce que, fatigué, ils arrivent sur un grand boulevard et disent « Ah ben, ce serait miraculeux que ce soit le boulevard Laurier. » Ils cherchent le panneau « Boulevard Laurier. » « Ah, enfin, on est arrivé. » Il y en a un des deux qui s'assied sur le banc qui était là et dit « Voilà, on est arrivé. » Et l'autre lui dit « Mais on n'est pas arrivé. C'est le château Frontenac qu'on voulait voir. On n'est pas arrivé du tout. Mais si, on est dans le bon chemin. On est dans la vérité. Regarde, on est sur le boulevard Laurier. On est arrivé. » L'autre lui dit « Mais non, on n'est pas arrivé. » Est-ce que nous ne nous est pas arrivé, nous aussi, de prendre la vérité comme étant un but en soi? Alors que la vérité, en réalité, est destinée à nous conduire à quelqu'un. Elle est destinée à nous conduire à Jésus. La vérité n'est pas un but en soi. Jésus avait parlé de ça, il avait essayé de faire comprendre que ça ne sert à rien de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il va vraiment falloir que la vérité soit un outil qui nous conduit à une personne, à la personne de Jésus. Et c'est de cette manière-là que la vérité va nous transformer. C'est de cette manière-là que la vérité va restaurer en nous l'image du Créateur, par l'intermédiaire de Jésus. Autrement dit, nous pouvons avoir une très bonne théologie, mais ne pas être nécessairement pour autant de bons chrétiens. Nous pouvons avoir une très bonne théologie et pour autant ne pas avoir une bonne éthique. Ce n'est pas suffisant de savoir. Il faut aussi avoir le savoir-faire. Et pour avoir le savoir-faire, cela demande le savoir-être. Et c'est probablement là que nous manquons le plus. J'aimerais prendre une histoire biblique que vous connaissez bien et qui illustre à quel point on peut parfois faire ce qui est bien, faire ce qui est juste, mais le faire tellement mal que ça ruine en réalité tout le projet. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 27, il nous est raconté cette histoire de Jacob et Ésaü. Jacob qui va voler ou acheter à son frère le droit d'aînesse. Isaac est devenu vieux et il va dire à son fils aîné, Ésaü, « Va chasser, prépare-moi un repas comme j'aime, parce que ça sera le moment pour moi de mettre sur toi ma bénédiction, la bénédiction patriarcale. » Alors Ésaü s'en va, il va à la chasse. Et Rebecca, qui a entendu cela, va trouver Jacob et lui dit, « Mon garçon, c'est le moment d'agir et il faut faire vite. Va vite prendre un chevreau, je t'arrange ça, et toi tu vas aller chercher la bénédiction que tu dois recevoir. » Jacob est un peu effrayé à l'idée de faire ça. « T'inquiète pas, on va te mettre des pots de biquette sur les bras, tu vas ressembler à ton frère. » Et c'est ce qu'il fait. Et Isaac, en recevant son fils, dit « C'est bizarre, c'est la voix de Jacob, mais ce sont les mains d'Ésaü. » Il n'est pas bien sûr quel est le fils qui vient le voir. Mais enfin, la bénédiction va reposer sur Jacob. La bénédiction de l'aîné, la bénédiction patriarcale. En fait, c'était juste parce que Rebecca avait eu cette information deux chapitres plus tôt, au chapitre 25, au verset 23, il est dit « L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » C'est ce que Dieu avait prévu. C'était bien de désirer la bénédiction patriarcale de l'aîné. C'est une responsabilité spirituelle. C'est un héritage important. C'est une responsabilité importante. C'est bien. C'était juste parce que c'était selon le plan de Dieu. Mais ça a été terriblement mal fait. Ça a été fait par le mensonge et par la tromperie. Le Seigneur nous demande pas seulement un savoir, pas seulement un savoir-faire, mais un savoir-être. Le Seigneur ne nous demande pas simplement une bonne théologie, il nous demande aussi une bonne éthique. Et nous avons dans le livre du prophète Michée trois dimensions qui me paraissent importantes et j'aimerais les regarder avec vous ce matin. Dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6 se trouve ce texte que nous connaissons bien, au verset 8, et qui dit ceci. Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » La première chose qui nous est dit, « On t'a fait connaître, ô homme, tu le sais, on t'a fait connaître. » Et cette connaissance n'est pas le fruit de l'intelligence humaine, cette connaissance n'est pas le fruit de la raison humaine, cette connaissance n'est pas le fruit de la révolution, n'est pas le fruit de l'évolution, elle est le fruit d'une révélation divine. Et vous vous souvenez, dans le livre du prophète Amos, Dieu dit « L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu ne prend personne par surprise, il nous révèle sa volonté. C'est donc par révélation, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et on se demande si vraiment Dieu a révélé ça à tout le monde. Regardez par exemple ce texte, gardez un doigt dans Michée, nous allons y revenir, mais regardez ce passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Évangile selon Matthieu au chapitre 11, au verset 25, il est écrit ceci. Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Heureux les pauvres en esprit, disait Jésus. Cette révélation, elle est accessible finalement à ceux qui veulent la recevoir, à ceux qui reconnaissent qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Mais ceux qui prétendent tout savoir, ceux à qui il n'y a rien à apprendre, ceux qui ont la connaissance pour avoir le pouvoir, ceux-là n'entendent rien de la révélation divine. On t'a fait connaître. Souvent la révélation de Dieu est mal reçue. Elle est mal reçue parce que beaucoup de nos contemporains disent tout le temps, quand Dieu se révèle, c'est toujours pour nous donner un ordre. Et en plus, une interdiction. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. C'est vrai, quand on regarde les 10 commandements, ce sont des interdictions. Mais écoutez, il y a des pères dans cette assemblée et des mères. Vous êtes devant votre maison et vous avez votre petit enfant de 3 ans qui est en train de courir vers la rue et vous savez qu'il y a une grosse voiture qui arrive là. Et votre enfant court tout ce qu'il peut. Est-ce que vous allez vous arrêter et lui dire, mon enfant, je ne veux surtout pas te traumatiser, mais je pense que tu devrais arrêter ta course parce que tu cours un danger énorme, mon enfant, j'aimerais pourtant que tu arrêtes ta course parce que tu risques. Père et mère, vous êtes devant ce tableau, vous allez dire, stop, arrête! Et c'est ce que Dieu fait souvent. Arrête! Parce qu'il essaye de nous faire comprendre avec toute la force du tonnerre que le péché est dangereux. C'est ce que Dieu fait souvent. Et pourtant, nous regardons sa révélation comme interdiction, frustration, traumatisme, alors que c'est une révélation de son amour finalement. Je reviens maintenant dans le texte de Michée, chapitre 6. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est une morale. Ce sont des valeurs. Ce sont en réalité les valeurs de Dieu. Ce sont les valeurs divines. Et c'est ce que Dieu nous a révélé. Revenez avec moi, si vous le voulez, dans le livre d'Amos. Amos au chapitre 5 et au verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Recherchez le bien. Ce n'est pas naturel en nous. Il va donc falloir le rechercher. Dieu nous l'a révélé, mais il est important d'en faire la recherche, parce que naturellement en nous, nous ne l'avons pas. Et il y a dans le monde d'aujourd'hui une confusion morale totale. Dieu exprime sa frustration dans le livre du prophète Malachie. Regardez ce texte avec moi au chapitre 2, Malachie chapitre 2, au verset 17. Dieu exprime sa frustration devant la confusion morale en dépit de la révélation qu'il a faite. Malachie chapitre 2, verset 17 dit ceci. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. On comprend le bien comme étant le mal, et on comprend le mal comme étant le bien. On a inversé la révélation que Dieu nous a donnée. Et ça ressemble étrangement au monde moderne dans lequel nous vivons. Cette révélation, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est une mesure anti-relativisme. Contrecarrer cette idée que finalement, il n'y a pas un bien objectif. Ce qui est bien pour toi, c'est parfait, garde-le. Moi, j'ai mon bien pour moi et chacun fait sa petite sauce, sa petite religion, comme il l'entend. Ce qui fait que personne ne peut critiquer personne. C'est le refus de cette vérité objective, de ces valeurs morales objectives. C'est le refus de cette distinction entre le sacré et le profane. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est la morale de Dieu. C'est une valeur à défendre, c'est une valeur à préserver. Alors il nous faut poser cette question devant une circonstance, devant une activité, devant quoi que ce soit. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça correspond à la révélation de la morale de Dieu? Est-ce que c'est bien? Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le texte continue et revenez avec moi dans le livre du prophète Michée au chapitre 6, où il est dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. » Que tu pratiques la justice. Cette fois-ci, c'est le droit. Ce sont les principes. Vous savez, on est capable de faire ce qui est bien, mais de le faire d'une manière injuste. Faire ce qui est bien n'est pas suffisant. Il faut que ce que nous faisons soit bien et soit juste. Il faut que ça corresponde au droit. Parce que on peut faire une bonne action, mais qui n'est pas bien. Laissez-moi prendre un exemple biblique tout simple. C'est une histoire qui nous est racontée dans le livre des Rois. Vous vous souvenez de ce jugement de Salomon? Deux femmes ont des enfants. Et pendant la nuit, l'une de ces femmes, en dormant, étouffe son bébé. Elle va voler le bébé de l'autre. Ce qui fait que le matin, au lieu d'avoir deux mères et deux bébés, on a deux mamans et un bébé qui se disputent pour savoir à qui il va être. Alors on amène ces deux femmes devant Salomon, le grand sage. Et elles expliquent leur situation. C'est mon bébé, non c'est le mien, non c'est le mien, non c'est le mien. Et Salomon va résoudre le problème. Il parle à un de ses gardes, il lui dit « Sors ton épée, prends-moi ce bébé, tu le coupes en deux, tu donnes la moitié à chacun. » Et à ce moment-là, la vraie mère arrive, il dit « Non, 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 donne-le-lui si tu veux, mais ne coupe pas mon bébé. » C'était juste, mais ce n'était pas bien. Ce n'était pas le bien. C'était juste de donner à chacun la moitié. Mais ce n'était pas le bien que Dieu avait révélé. C'était un stratagème, je l'en comprends, que le sage Salomon a utilisé pour déceler qui était la vraie maman. Mais dans la vie pratique, il nous faut toujours associer ce qui est bien et ce qui est juste. Le bien et le droit. Les deux sont importants. Et nous avons des exemples bibliques, j'aimerais les prendre avec vous. Dans le premier livre de Samuel, se trouve un premier exemple ici que j'aimerais regarder. Premier livre de Samuel au chapitre 24. Premier Samuel, chapitre 24. Dans ce chapitre, il nous a raconté cette chasse éperdue de Saül contre David. Et il se trouve dans ce chapitre-là que les soldats de David et David se sont réfugiés, se sont retirés dans une caverne. Curieusement, Saül, tout seul, rentre dans cette caverne. Les amis de David lui disent « Le Seigneur livre ton ennemi entre tes mains, c'est le moment, tue-le !» Et David va réagir, chapitre 24, au verset 7. David dit à ses amis « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action tel que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel, ce qui est juste et ce qui est droit. » Et un petit peu plus loin, dans le même chapitre, lorsque Saül va se rendre compte de ce qui s'est passé, il va dire, c'est le verset 18, il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu es plus juste que moi. » Il ne s'agit pas simplement de faire ce qui est bien, il s'agit en plus de faire ce qui est juste. C'est essentiel parce qu'il y a non seulement la morale, mais il y a aussi le droit. Un autre exemple dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er au verset 16, nous lisons ceci. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Vous avez remarqué, ce sont deux choses différentes. Apprenez à faire le bien et recherchez la justice. Ce sont deux choses complémentaires et nécessaires. Vous remarquez que nous avons du mal à faire les deux. Il va nous falloir apprendre à faire le bien, il va nous falloir rechercher la justice. Ce ne sont pas des choses que nous avons naturellement en nous. Souvenez-vous d'ailleurs, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous pensons peut-être passer par un autre chemin. Un autre exemple se trouve dans le livre de Job, au chapitre 13. Dans le livre de Job, au chapitre 13, nous rencontrons ici cet homme de Dieu qui souffre et qui ne comprend pas sa situation. Job, chapitre 13, au verset 3, il dit « Je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. » Job sait que la condition désastreuse dans laquelle il se trouve n'est pas le résultat direct d'un de ses péchés, comme ses amis veulent le lui faire comprendre. Alors il réagit et dit « Je veux aller à Dieu et je veux lui me défendre contre Dieu pour qu'il me fasse justice. » Au verset 18, il est très clair. « Me voici prêt à plaider ma cause, je sais que j'ai raison. » Par rapport à ses amis qui lui racontent que s'il est dans cette situation-là, c'est parce qu'il a commis un péché secret épouvantable. « Je sais que j'ai raison. » Le problème, c'est que Job, à la fin de cette histoire, a dû se repentir. Non pas qu'il avait raison, mais de la manière dont il a géré ce qu'il pensait être son droit. Un autre exemple, dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, l'apôtre Paul nous donne une formule que nous connaissons bien dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 23. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. J'ai le droit, mais ce n'est pas nécessairement bien. Si j'ai un droit et que ce n'est pas nécessairement bien, alors je sais que ce n'est pas un droit à revendiquer. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est une morale, ce sont des valeurs. Mais ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est un droit, ce sont des principes. Alors on se pose la question, est-ce que c'est bien et est-ce que c'est juste? Car il faut que toutes nos actions soient dans le bien et dans la justice. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir une bonne morale et d'avoir intégré le droit. Il y a encore une autre dimension dans notre texte que nous avons besoin d'explorer. Michée, chapitre 6, de verset 8, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » La troisième dimension, c'est une éthique, c'est une attitude différente, c'est la manière de faire. C'est le savoir-être dont on parlait tout à l'heure. L'épitaphe inscrite sur la tombe du cardinal Richelieu dit ceci. Le bien qu'il fit, il le fit mal. Le mal qu'il fit, il le fit bien. Le bien qu'il fit, il le fit mal. Le mal qu'il fit, il le fit bien. Ce n'est pas suffisant d'être dans le bien. Ce n'est pas suffisant de faire ce qui est juste. Encore faut-il bien le faire. C'est une éthique. Et nous avons besoin d'apprendre à faire les choses comme il faut, même si elles sont justes et même si elles sont bien. Laissez-moi prendre juste quelques exemples. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul va prendre une image pour exprimer cette même dimension. Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Au début du chapitre 4, l'apôtre Paul écrit ceci. Éphésiens, chapitre 4. Verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et c'est là, n'est-ce pas, que nous avons le plus de difficultés. Nous savons ce qui est bien. Nous savons revendiquer notre droit. Mais quant à l'appliquer avec cette dimension-là, c'est là souvent que nous manquons. Tournez une page dans la même épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, la même image est reprise, mais cette fois-ci il y a une dimension supplémentaire qui est ajoutée. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Marchez à l'exemple de Christ. C'est cette dimension de l'éthique chrétienne. La vérité ne suffit pas. Vous savez, certains connaîtront la vérité et seront perdus. Et certains ne connaîtront pas la vérité et seront sauvés. Vous allez me dire, mais ça ne sert à rien, alors la vérité. C'est essentiel parce que c'est la révélation de Dieu. Et ne pas avoir reçu, compris et intégré la vérité de Dieu, c'est ne pas avoir reçu Jésus comme notre sauveur. C'est dire qu'il est nécessaire que nous avancions dans notre vie chrétienne avec ce qui est bien, avec ce qui est juste et avec une bonne manière de le faire. Vous savez, trop souvent, nous avons tort par notre manière d'avoir raison. Nous avons tort par notre manière d'avoir raison. C'est bien, c'est juste, mais c'est mal fait. Et c'est là, sans aucun doute, que nous avons le plus de difficultés. Parce que souvent, nous connaissons ce qui est bien. Nous connaissons ce qui est juste. Mais par nature, nous avons du mal à le faire comme il faut. La vérité que nous avons acceptée fait de nous de bons théologiens. Elle ne fait pas nécessairement de nous de bons chrétiens. Jésus était confronté dans son temps au même problème. Il s'adressait aux Juifs et leur disait, « Vous sondez les Écritures ?» Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, disait Jésus, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils connaissaient les Écritures, la vérité, par cœur. Mais quand cette vérité est venue en personne, ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que de la rejeter. Ce qui est bien, ce qui est juste, et la manière de le faire, l'éthique. Dieu nous a révélé ce qui est bien. Il nous a révélé ce qui est juste. Et il nous a aussi révélé comment le faire, parce qu'il nous a donné un exemple en Jésus. Et souvent nous pensons que nous avons fait notre travail en faisant ce qui est bien, sans nous préoccuper de savoir si c'était juste. Nous pensons avoir fait notre travail en faisant ce qui est bien, ce qui est juste, sans nous préoccuper de la manière dont on l'a fait. Et le Seigneur en Jésus veut nous donner cet exemple des trois dimensions. Alors revenons à la case départ. Jacob. Jacob avec cette entreprise de conquête du droit d'aînesse, qui était bien, qui était juste, mais qui était mal faite. On a l'impression qu'à la fin de sa vie, Jacob avait appris la leçon que nous avons besoin d'apprendre. Dans Genèse au chapitre 48, nous retrouvons Jacob à la fin de sa vie. Il est en Égypte cette fois-ci. Il y a eu de nombreuses pages tumultueuses de sa vie qui se sont déroulées entre ces deux histoires que nous voyons ce matin. Et nous arrivons aussi au chapitre 48, où Jacob, avec Joseph, son fils bien-aimé, voit deux jeunes gens qui sont là. Il dit, c'est qui ces garçons? Mais ce sont mes enfants, ce sont tes petits-enfants que le Seigneur a donnés. Et Jacob est émerveillé, il dit, je ne pensais même pas te revoir toi, et voilà que maintenant je vois même tes enfants, apporte-les-moi que je les bénisse. Alors Joseph va amener ces deux garçons, Manassé et Éphraïm, devant leur grand-père, Jacob. Manassé est l'aîné. Il va donc le mettre devant la main droite de Jacob. Éphraïm est le cadet. Il va donc le mettre devant la main gauche de Jacob. Parce que l'aîné va recevoir la bénédiction patriarcale, la bénédiction de l'aîné. Alors Joseph amène ses deux enfants, Manassé et Éphraïm. Et Jacob, tout d'un coup, croise les mains. Et nous avons ça dans le texte, c'est intéressant. Joseph lui dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il lui prend la main pour remettre les mains droites. Et vous avez remarqué, au verset 18, Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et lui dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, mais le cadet sera plus grand. C'était bien, c'était juste, et cette fois, ça a été bien fait. Bien fait d'une façon surprenante, bien fait parce que le Seigneur avait inspiré à Jacob de le faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il fallait que ça soit fait. Le Seigneur nous a donné un grand savoir. Il nous a donné sa révélation. Il nous a aussi donné des principes d'action. Il nous demande aussi un savoir-être. Il ne veut pas simplement que notre théologie soit correcte. Il veut que notre éthique chrétienne corresponde à l'exemple de Jésus. Et ça, ça demande une conversion profonde. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen.